Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Mardi 5 octobre, bonne journée, bienvenue au 98.5. D'abord, c'était un rapport très attendu qui vient de tomber. Le rapport Sauvé en France, qui mesure l'ampleur des violences sexuelles commises au sein de l'Église catholique depuis les années 50. Et si on fait une projection, parce que les auteurs du rapport disent c'est un aperçu, c'est un minimum, 330 000 personnes mineures ont été victimes de ces violences commises par des prêtres et même par des laïcs qui œuvrent au sein des communautés. Selon ce qu'on découvre dans ce rapport, il y a eu 216 000 personnes qui ont été abusées, 32 % ont subi des viols, et c'est clair qu'il y a eu comme une complicité de la hiérarchie religieuse. Ça veut dire que il y a 12 enfants qui étaient violentés chaque jour depuis 70 ans par des prêtres et des religieux catholiques dans les paroisses, dans les communautés. C'est un cataclysme. Et c'est pour ça que je vous dis que ce rapport-là était extrêmement attendu. L'Église catholique a manifesté jusqu'au début des années 2000 une indifférence profonde et même cruelle à l'égard des victimes, dit le président de la commission Jean-Marc Sauvé, qui propose de reconnaître la responsabilité de l'institution et recommande une réparation financière pour les victimes de ces prêtres et de ces religieux pédophiles. Il y a eu d'autres études dans d'autres pays qui arrivent pas mal à ce genre de conclusion. C'est d'abord le nombre effarant de victimes, le fait que ces victimes-là n'ont pas été crues, entendues, écoutées, et donc pas protégées et plus tard pas dédommagées, et que la structure religieuse avait comme mission de déplacer d'un endroit à l'autre des prêtres abuseurs plutôt que d'avertir la justice, pensant soigner et guérir le prêtre pédophile, et aussi d'éviter que le scandale vienne éclabousser l'institution. Et je rappelle que des cardinaux ont protégé des membres de leur hiérarchie. Des monseigneurs, des évêques ont fait la même chose. Ça ne veut pas dire que tout ce que fait l'Église est tout croche. Ça veut dire que c'était un cancer à l'intérieur de l'institution et que des prêtres ont pu comme ça abuser d'enfants, de mineurs pendant toutes ces années. On y reviendra un peu plus tard. Le dossier Facebook. Alors, on a pu voir hier que cette panne qui a commencé vers midi moins quart, puis c'est revenu progressivement là vers l'heure du souper, autour de 18 heures, ça a un impact majeur. D'abord, c'est en termes de durée la panne la plus importante pour ce qui est de Facebook. Et hier soir, la compagnie a fait savoir que c'était probablement une mauvaise configuration. Donc, on a fait une nouvelle configuration des serveurs, et que c'était une opération ratée. Ce qui veut dire que WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram et d'autres sites ont été complètement paralysés. Et je sais qu'hier, il y a des gens qui sont allés sur Twitter, puis on va en parler avec Elisabeth tantôt, parce qu'ils avaient besoin de communiquer, puis ils avaient besoin de parler. Puis là, il y a eu bien des farces de Twitter sur sa résistance. Quoique ça arrive aussi que Twitter tombe en panne. Et bref, pas mal d'humour, mais aussi de gens qui, pour la business, pour les affaires, ont besoin de Facebook ou encore pour leur travail. Alors, Facebook qui a présenté hier ses excuses. Selon certains témoignages, le message d'erreur stipulant tout simplement que c'était impossible de charger la page, si vous allez voir ça, vous avez pu vous en rendre compte. Et puis également, ça arrive au lendemain d'une entrevue, alors que l'ex chef des produits de Facebook, qui est une ingénieure, France Hogan, a divulgué des documents internes et accuse Facebook d'avoir opté pour le fric, pour le cash, pour le profit, plutôt que la sûreté, la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Ça a été diffusé notamment à l'émission 60 Minutes dimanche. Elle a déposé des plaintes auprès des forces fédérales, le FBI. Elle allègue que les propres recherches dans l'entreprise montrent comment elle amplifie la haine et la désinformation et conduit à une polarisation accrue et que Instagram peut nuire à la santé mentale des adolescentes. Fait que c'est pas que la petite sortie là, qu'elle a faite. Et bon, depuis hier, c'est une vague assez forte sur Facebook. Maintenant, troisième dossier ce matin, le dossier COVID. Les nouvelles sont quand même assez bonnes, je dois dire. On voit qu'actuellement, les cas de COVID reculent. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent pour m'expliquer à quel point ils ont de la difficulté à prendre des rendez-vous à proximité de leur lieu de résidence ou leur lieu de travail pour aller se faire tester. Il y a un cas, entre autres, je n'irai pas dans tous les détails, mais tu sais, quand tu es obligé de faire 35-40 km pour aller te faire tester, ça se peut qu'il y a des gens qui ont des symptômes puis qui vont pas tout court, là. Alors, est-ce que c'est ça? Mais par contre, vous regardez que depuis deux semaines, c'est stable et voire même à la baisse. Le nombre de décès est un peu élevé. Et il semble également que dans le cas des hospitalisations, on se rend compte finalement que là aussi, il y a peut-être des indicateurs positifs. Quand vous regardez, par exemple, le nombre de cas, on se rend compte, là, groupe d'âge, toujours la même chose. Là. Majoritairement, les gens qui sont à l'hôpital à cause de la COVID, très largement, ce sont des gens qui ne sont pas pleinement vaccinés. Et avec la rentrée scolaire, on avait une augmentation forte dans les écoles. Là, il semble que ça recule, puis ça recule à Montréal. Encore là, le recul, est-ce que c'est le fait qu'on teste moins ou que c'est plus compliqué? Je pourrais pas vous dire. Mais semble-t-il qu'on est sur la bonne voie. Rappelons que le mois d'octobre était le mois charnière et que le mois de septembre, pardon, était le mois charnière et que le mois d'octobre est aussi une période. Puis là, ça va pas mal, je dirais, dessiner la période du temps des fêtes. Je sais que beaucoup d'entre vous pensaient à ça. Alors voilà une très bonne nouvelle concernant le dossier COVID. Il y a également une entente qui a été annoncée pour essayer de combattre la pénurie de personnel dans le réseau de la santé, notamment avec des services ambulanciers. Donc, il y a des paramédics qui vont faire plus de soins, donc ils vont prêter main forte aux équipes qui travaillent déjà dans des urgences qui sont débordées. La CSN n'est pas contente, elle aurait voulu être consultée. Mais quand je vous dis là, c'est difficile avec les syndicats. Je regarde la FIC, là, la chicane est pognée. Nancy Bédard en arrache. D'abord, le vote sur l'offre patronale entériné par 54%. C'est pas beaucoup, ça. C'est un vote serré qui montre des divisions. Mon ami Patrick Lagacé, hier, m'envoie capture d'écran. C'est un vote de contestation de la présidente en disant qu'entre autres, qu'elle change d'idée, qu'elle a un discours sur la place publique qui n'est pas le même qu'on entend, qu'elle aurait pu aller chercher plus, que bref, les gens ne font plus confiance. C'est un vote de non-confiance. Elle a gagné son vote. Mais il y a des tiraillements. Alors qu'on doit demander aux syndicats de faire preuve d'un peu plus de souplesse. Tu sais, le problème, là, quand t'es au bout de la table, tu regardes la FIC, tu dis, êtes-vous fiable dans ce que vous nous racontez? Êtes-vous capable de livrer à marchandise? Vous prenez des engagements? C'est quoi votre capacité de donner des résultats? C'est une maudite bonne question. Alors, va être intéressant de voir comment ça évolue. Un autre accident impliquant un vélo. C'est soldé par un délit de fuite. On se souvient du cas très triste. D'ailleurs, il y a eu cérémonie dimanche, avenue du Parc et Mont-Royal, alors qu'un jeune homme qui était à vélo a été frappé par un poids lourd, un gros camion, que le chauffeur ne s'est pas arrêté. En tout cas, il n'est pas resté sur les lieux et on l'a repéré plus loin et il fait face à des accusations. Cette histoire-là est arrivée avant. C'est un auditeur qui me la raconte puis il viendra nous raconter ça de vive voix tantôt. Il dit, je suis entré en collision avec un camion type cube mardi dernier, soit le 28 septembre, 7h30 le matin. Je circulais sur la piste cyclable Notre-Dame direction ouest. À l'intersection de Frontenac, je vois la flèche verte. Je regarde rapidement derrière moi, à ma gauche, je vois un camion qui roule sur la droite direction ouest sur Notre-Dame qui ne clignote pas. Je poursuis donc ma route. Il me coupe et je percute la boîte du camion violemment. Je tombe au sol, vois les roues arrière du camion passer à côté de ma tête. Je crie, mais il poursuit sa route sur Frontenac Nord. Il ralentit et repart. Aucun automobiliste s'arrête, ni aucun vélo. C'est un itinérant qui est venu me voir et qui m'a demandé si j'étais OK. Les policiers, les paramédics sont arrivés rapidement. Ils ont été extraordinaires. J'ai été chanceux. Luxation de l'épaule, des courbatures, égratignures. Mais le soir, quand j'ai regardé les nouvelles, je suis resté traumatisé de constater que le même scénario s'était produit la veille, mais que dans ce cas-là, le cycliste était décédé. Quand je vous parle de cette cohabitation entre piétons et cyclistes, c'est un enjeu majeur et ça nous appelle à être plus vigilants. Et puis je comprends que les gens sont pressés, puis je comprends que les gens doivent, des livreurs, tu sais, tout ça est vrai, là. D'ailleurs, le candidat à la mairie, Denis Coderre, lui fait de la sécurité des piétons un enjeu. Puis c'est vrai que pour les piétons, là, il n'y a pas juste les autos, les cyclistes sont pas toujours très, très courtois, mettons. Bref, sur notamment Saint-Denis, un de ses candidats qui est sur porte-parole du parti en matière de mobilité, là, Adrien Parizeau, qui dit que il y a beaucoup de gens qui trouvent que c'est dangereux quand tu traverses, parce que là, tu as la rue pour les autos, tu as la piste cyclable qui a été aménagée. Également, sur certains axes de Montréal, c'est compliqué. Alors, encore une fois, ce matin, je profite de mon micro juste pour faire ce rappel-là. On vit ensemble dans une ville, puis c'est vrai qu'il y a un paquet d'obstacles, des embûches, c'est vrai qu'il y a des détours, qu'il y a des comptes, qu'il y a des rues fermées, on sait tout ça, puis que ça peut nous rendre irritables, mais pensons toujours à la personne qui est la plus vulnérable, c'est-à-dire la personne qui est à l'extérieur du véhicule, un cycliste ou encore quelqu'un qui est à pied. Projet Montréal a coulé un sondage, léger, c'est toujours pareil, si le sondage n'était pas favorable, c'est sûr qu'il serait resté caché dans le tiroir, mais là, c'est un sondage léger qui montre ce qu'on perçoit, je pense bien, c'est-à-dire une lutte extrêmement serrée entre Valérie Plante et Denis Coderre. Alors, selon ce sondage, Mme Plante aurait fait un gain de 2, M. Coderre aurait perdu 2, ce qui donne 36-35. Ballarama, Holness, 5, c'est-à-dire une hausse de 5 % donc à 10. Et Marc-Antoine Desjardins à 6. Rappelons que les deux ont décidé de fusionner avec des grincements de dents dans leurs équipes. Mais c'est sûr que là, M. Holness apparaît un peu mieux placé, moins marginal. Est-ce que le 6 % va suivre? Ça reste à voir, mais il peut avoir un effet sur le résultat en fonction des appuis qu'il va aller chercher. Alors, plus 2, moins 2, on est pas mal dans la marge d'erreur. Puis quand vous regardez, parce que ça aussi c'est un facteur important, l'opinion à l'égard des chefs, une bonne opinion, c'est 49 % dans le cas de Mme Plante et dans le cas de M. Coderre, c'est 46 avec une légère baisse. Nous sommes à un mois de l'élection. Ça veut dire que c'est extrêmement serré et que ça va se jouer sur la capacité des équipes de sortir le vote puis l'impact que va avoir ce troisième candidat, M. Holness. Le premier ministre François Legault a fait une espèce de mea culpa hier. Ça s'imposait. Parce que disons que sa journée de vérité et réconciliation, les propos qu'il a tenus, c'est d'abord, un, de dire qu'il voulait pas que ce soit un congé férié pour des raisons de productivité, c'était pas ce qu'il y avait de plus habile. Puis quand le débat à l'Assemblée nationale a viré partisan, c'était pas nécessaire non plus dans ce contexte-là. Puis je pense qu'au moins il le reconnaît, t'sais, c'est vaut mieux tard que jamais. Alors hier, sur Facebook, il a tenu à le dire qu'il était responsable de cette espèce de manque de compassion et que on sait que la coroner va prendre la parole pour la première fois aujourd'hui depuis qu'elle a rendu public son rapport. Alors, c'est sûr que les relations entre les communautés autochtones et le gouvernement, malgré les efforts du ministre Yann Lafrenière, ben ça demeure extrêmement tendu. C'est comme si la question autochtone n'était pas nécessairement une grande priorité pour le gouvernement. Parlons de la police, justement. Ce matin, vous avez la Fraternité qui sort un document important la Fraternité des policiers là, qui œuvre sur la scène municipale. Et dans ce document-là, puis on va parler avec le président un peu plus tard ce matin, essentiellement, le message est le suivant. On veut travailler comme policiers, puis les policiers... Puis là, évidemment, on a le cas de Repentigny là, sur le tableau de bord. On veut pas se faire amasser en déonto, on veut pas se faire écœurer, on se fait tout le temps traiter de raciste, de faire du profilage. Et la conséquence de ça, c'est qu'on participe pas aux enquêtes. Message, c'est magnifique de faire des enquêtes comme Centaure, là, puis de viser les gros joueurs de la distribution des armes sur le marché illégal de Montréal. Mais les policiers municipaux ont une job à faire. Et qu'il y a une forme de désengagement sur le terrain. Et on sait que les policiers de Repentigny ont fait l'objet d'un rapport où on se rend compte que les Noirs sont, les minorités visibles, là, sont plus visés par les opérations policières. On promet un changement de culture à Repentigny. Fait que là, c'est l'autre son de cloche de policiers et de policières terrain qui disent « Si vous voulez qu'on lève le pied, ben vous avez trouvé la recette. » Parce que les gens vont répondre aux appels puis ils voudront pas trop s'impliquer, être proactifs dans un dossier comme celui-là. En terminant, parlons un peu d'argent. Je voyais ce matin dans Le Devoir que 6 Canadiens sur 10 pourraient s'endetter davantage cet automne. Les taux sont bas, l'accès au crédit. Et donc, là, c'est peut-être un peu plus préoccupant, les gens pensent à s'endetter à l'approche des fêtes. C'est toujours pareil, tu dépenses pour quoi? Pour un voyage, tu vas t'endetter. Ta carte de crédit avec des taux d'intérêt élevés ou c'est des biens durables? Bonne question. Le prix du pétrole, Marc nous le soulignait, est quand même assez élevé. Et d'ailleurs, les prix du pétrole ont grimpé hier. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a décidé de maintenir une stratégie qui vise à augmenter lentement mais progressivement la production de pétrole et survient dans un contexte de reprise économique alors que la demande pour les produits du pétrole comme l'essence, le kérosène, est en augmentation. Puis on le voit, là, c'est pas loin d'un dollar 50, d'un dollar 44, 45, 46, 48, le litre. Et c'est une tendance qui est à la hausse depuis quelques temps.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Le FA Gautier donne des mots de tête, évidemment, aux dirigeants de la Société des traversiers, au ministre des Transports, François Bonnardel. C'est presque une caricature quand on regarde l'historique des problèmes connus par ce bateau qui a été livré, sauf erreur, c'est en juillet 2015, un bateau qui coûtait 175 millions. Et depuis ce temps, les problèmes se multiplient. Stéphane Lafaux est le président directeur général de la Société des traversiers du Québec. Monsieur Lafaux, bonjour.
Bon matin, Monsieur Arcand.
Bon, là, quelles sont les dernières nouvelles du FA Gautier? Il s'en va en cale sèche une fois de plus?
Ben, on n'a pas le choix. On a une légère fuite d'huile depuis quelques mois sur le navire. C'est pas nouveau, on l'avait déjà mentionné. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est toujours, on s'est surtout assuré de faire tous les tests requis. Et puis la cale sèche est la dernière avenue pour corriger le problème.
Mais est-ce que c'est une fuite d'huile importante? Pourquoi c'est si long à réparer?
Ben, premièrement, là, c'est de l'huile biodégradable qui lubrifie, là, qui sert à lubrifier là, les joints d'étanchéité. Bien entendu, on parle là, de joints d'étanchéité qui sont sous l'eau et puis c'est quelques gouttes. On a collaboré tout l'été avec Transport Canada pour s'assurer qu'on était dans les normes. Et puis, ils nous ont autorisé à opérer le navire. Et nous, ce qu'on voulait faire, c'était garder le navire en opération durant tout l'été parce que les Québécois méritaient un navire de qualité pour traverser. On a 72 000 passagers qui en ont profité. Puis pendant ce temps-là, ben nous, on a fait les tests qu'on avait besoin de faire. On a fait des correctifs que le fabricant des propulseurs nous a demandé de faire, et puis il était à bord avec nous, et puis là, bon, on en arrive avec un plan qui va nous amener en cale sèche pour corriger définitivement le problème.
OK. Tout ce que vous avez fait, c'était pas suffisant pour corriger le problème.
Ça n'a pas fonctionné. Le manufacturier voulait qu'on essaie différentes solutions sans nécessairement sortir le bateau de l'eau. Mais moi, je dois vous avouer que j'étais un peu exaspéré, un peu comme mon équipe, là, de voir à ce qu'on a, on ait une minime fuite d'huile qui nous empêche d'opérer. On a un devoir d'exemplarité. Fait que même une goutte d'huile, c'est déjà une goutte de trop. Donc, on doit en arriver à le sortir littéralement là, de le navire de l'eau pour corriger le problème, identifier la source du problème.
Êtes-vous certain que vous allez régler le problème?
Écoutez, moi, mon mandat que j'ai reçu du gouvernement, c'est d'en venir à bout du navire. C'est quand même un actif de 170 millions que les Québécois ont acquis. Et lorsqu'il fonctionne, et je peux vous dire que le navire, à part cette légère fuite d'huile, fonctionne de façon optimale. Les Québécois en ont profité tout l'été. Encore une fois, je le redis, près de 73 000 passages. On n'a pas manqué aucune traverse pour bris mécanique. Je me suis assuré qu'il soit fonctionnel pour l'été. Et puis là, ben, faut corriger la source. Il faut le corriger. On n'a pas le choix.
OK, mais il y a quand même eu d'autres problèmes. Des problèmes de propulseurs, des problèmes au départ en 2015, je pense, d'alimentation en gaz naturel qui n'était pas fonctionnel.
Sérieux? Bon, la propulsion au gaz naturel, ça fonctionne. Je l'ai pas remis en marche pour l'instant parce que on voulait travailler avec ce qui était sûr. On a travaillé à optimiser le navire. Donc, bien des problèmes ont été corrigés. La cale sèche majeure qui est arrivée il y a un peu plus d'un an a corrigé tout l'ensemble des propulseurs qui avaient été endommagés.
OK. Donc, vous avez dépensé combien depuis que vous êtes propriétaire du F.A. Gautier en travaux de toutes sortes?
Ben, en travaux de toutes sortes, là, je pourrais pas nécessairement vous donner le chiffre exact.
À peu près?
Écoutez, même pas, je m'avancerai même pas sur un chiffre exact. Vous avez dans le rapport du VGQ de la vérificatrice générale des chiffres qui sont sortis. Je peux vous dire, grosso modo, cependant, qu'on a environ quelques dizaines de millions de dollars. Cela étant dit, on a quand même des remboursements qui sont en cours de la part des assureurs. Et puis, on travaille bien entendu avec notre service du contentieux à regarder nos options pour le problème qu'on vit présentement.
Mais quand vous me dites quelques dizaines, là, c'est un bateau qui a coûté 175 millions. On a-tu dépensé, à date, 50 millions en travaux de toutes sortes?
Non.
Moins ou plus?
Non. Beaucoup moins. Et moi, je dois vous dire là que opérer une flotte de navires, puis je... Un dollar, c'est un dollar.
Moi, j'ai vu 60 millions de dépenses, non?
Pardon?
J'ai vu, moi, 60 millions de dépenses.
Ben, écoutez, il y a des gens qui additionnent toutes sortes de dépenses, incluant l'achat du Sarima, incluant la location de certains...
C'est des dépenses indirectes, ça. Je veux dire, si F.A. Gautier avait fonctionné, vous n'auriez pas dépensé cet argent-là?
Bon, le Sarima a été acheté pas seulement comme navire de relève, pour la traverse de Matane, mais était déjà en examen pour la traverse de Rivière-du-Loup. Donc ça, là, c'est un achat qui était déjà inscrit au plan québécois des infrastructures bien avant. Là, nous, ce qu'on travaille, c'est de minimiser les coûts pour réparer le Gautier. Et bien entendu, on a des assurances. Il y a des choses qu'on a passées sur des assurances, là. Mais opérer une flotte de navires...
On va vous dire une affaire, vos primes vont augmenter.
Ben c'est sûr, monsieur, que les primes vont augmenter. Je ne peux pas dire le contraire.
OK. Expliquez-moi donc comment une génératrice qui normalement va à des organismes humanitaires américains se retrouve sur le F.A. Gautier.
Ben, pour la génératrice, écoutez, on a été surpris, comme bien des gens, de l'entendre. Mais moi, je peux vous dire que la génératrice a été vendue par Caterpillar au chantier Ficantieri. Nous, quand on a pris la livraison du navire en 2015, cette génératrice était à bord.
Puis il n'y a pas personne qui a allumé en regardant USAID, puis se disant, mais ça fait quoi, là?
Moi, j'ai parlé à mes cadres.
Puis
je peux vous dire, encore un matin, on en parlait, et ça n'a pas été rapporté. c'est sûr et certain qu'on aurait posé des questions, mais ça n'a pas été rapporté. Okay. Mais grosso modo, c'est une génératrice qui est flambant neuve.
Ah, je comprends, mais c'est parce qu'elle est supposée...
Livrée avec le navire, là, livrée avec le navire, là, maintenant...
Mais voulez-vous bien dire quelle sorte de construction ça a été?
Ben, écoutez, je pense que
là, entre vous et moi, là, on est rendu à en rire, là, parce que, tu sais, à un moment donné, là, vous êtes à bout de vous aussi du F.A. Gauthier, ça se peut pas, là.
Ben, le navire, écoutez, là, on a une fuite d'huile.
Ouais.
On va le corriger. Le navire a bien fonctionné jusqu'à présent. Il n'y a pas eu de problème, sauf pour les propulseurs. Problème qu'on a réglé. Là, on est pris avec une fuite d'huile. C'est sûr et certain là, qu'il y a un paquet de problématiques
identifiées. Jusqu'au prochain problème. Vous allez corriger ça, puis il y en a un autre qui va vous péter dans la face. Puis je suis à peu près convaincu que vous avez votre liste de troubles à venir.
Je vous cacherai pas que j'ai fait un plan avec l'équipe d'optimisation du navire. On a pris, OK, on a sorti tout ce qui était dans le rapport du VGQ. On a sorti, nous, notre liste de choses qu'on voulait améliorer. Et des améliorations, on en fait sur tous nos navires en passant, même ceux qui ont été construits au Québec. Donc, faut faire attention aussi, là. Mais un navire, ça s'optimise sur une durée de vie. Donc, on a notre liste de choses qu'on veut améliorer. Et on va le faire avec le Gauthier. C'est un actif qu'on peut pas laisser aller.
Non, je comprends.
On n'a pas le choix, là.
Je veux bien, là. Mais entre vous et moi, là, quand vous réunissez avec vos cadres, là,
oui.
Riez-vous ou vous pleurez?
Écoutez, on n'est même pas là, là. On n'est pas dans les les sentiments ou rien de ça.
Non, mais...
Il faut regarder le problème froidement. Et puis, on a un mandat du gouvernement, puis on a bien l'intention de le mener à terme.
Il va être en calissage pendant combien de temps?
On parle de quelques semaines. Le but, c'est un retour en service début décembre ou quelque temps en décembre.
Je vous reparle à la mi-décembre, c'est correct?
J'ai aucun problème.
Okay.
Ça va me faire plaisir.
Okay.
Ça va me faire plaisir.
Merci, M. Lafaux.
OK, merci.
Au revoir. Stéphane Lafaux est le président directeur général de la Société des traversiers du Québec, dont le fleuron est le F.A. Gauthier.
L'essentiel de Paul Arcand.
Annonce à Québec hier, on bonifie la rémunération des responsables de services de garde en milieu familial. Et comme on dit, ce sont de vraies augmentations, ce qui fait en sorte que, je vous donne pas trop de chiffres, là, mais en gros, le revenu net d'une ressource comme ça, qui accueille 6 enfants, va passer de 38 000 à 44 000. Et dans le cas de 5 enfants et un poupon, c'est 41 000 à 47 000. Il y a évidemment tout le débat sur le nombre de places disponible pour faire garder ses enfants. Il y a des objectifs. On fait le point avec le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe. Monsieur Lacombe, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
Est-ce que vous avez fait le calcul, là? Ça revient à combien de l'heure, ça? Les augmentations?
Ben, on calcule pas ça à l'heure. C'était un peu la complexité de tout ça. Combien ça vaut ce travail d'être éducatrice en milieu familial? Donc, c'est ce qui nous a donné des mots de tête et c'est pour ça qu'on a travaillé avec Luc Godbout, qui est un fiscaliste bien connu, un expert.
Mais vous devez,
qu'on arrive au meilleur résultat.
Je vous dis pas que c'est banal là, comme augmentation. Moi, j'essaie juste de voir là, combien d'heures travaille une responsable de service de garde. Quand les enfants arrivent à 7 heures le matin, elles repartent à 6 heures le soir, ça leur fait des semaines de combien? 50, 60 heures?
Ben, on nous dit souvent que ça représente une cinquantaine d'heures de travail à la maison pour ces femmes-là qui travaillent justement toutes seules, souvent de la maison. C'est un travail qui est exigeant, effectivement. Donc, c'est la raison pour laquelle on a bonifié ça de façon importante.
Ça fait pas un taux horaire spectaculaire non plus. Ce que je veux dire, là, c'est sûr, c'est une bonne augmentation. Je pense qu'elles sont ravies de ça, mais on s'entend que c'est pas cher de l'heure pareil pour garder des enfants.
C'est certainement, je dirais, un défi d'intéresser des jeunes à ce métier-là. Je voudrais que ce l'était davantage avant.
Ouais.
C'est vrai qu'on parle pas nécessairement de salaire net de 100 000 $ par année. En même temps, ce sont des emplois qui sont intéressants, qui ont aussi des avantages, notamment celui de travailler de la maison. Je suis pas en train de dire que c'est plus relax, je suis pas en train de dire que c'est plus facile, mais il y a aussi certains avantages. Quand on parle à celles qui le font, ce travail-là, elles nous disent qu'elles aiment ça, que c'est valorisant, et avec l'augmentation de leur subvention qu'on vient de leur accorder, qui a été négociée avec elles, ben elles nous disent que c'est encore plus intéressant. Donc, je veux quand même lancer un message positif, là. C'est un beau métier, puis on nous dit qu'avec ce qu'on offre maintenant, ben c'est encore plus intéressant de le faire.
Bon, évidemment, avec cette entente, vous souhaitez, j'imagine, que des femmes qui ont abandonné ce métier-là décide de revenir, donc que d'autres soient intéressés. Est-ce que vous évaluez de façon précise le nombre de personnes de services de garde en milieu familial, de responsables de services de garde en milieu familial qui sont nécessaires?
Ben, actuellement, on a plus de 20 000 places qui... parce que vous me demandez combien sont nécessaires, combien on aimerait en voir revenir. Moi, je vous dirais le maximum parce que la liste d'attente, elle est à 51 000 enfants actuellement. Donc, plus on sera capable d'aller en chercher, mieux ce sera. Puis des places disponibles, il y en a. On en a plus de 20 000 actuellement qui sont disponibles. Le financement est là, est prêt, mais on n'a pas de responsable de service de garde en milieu familial qui lève la main. Donc, on a espoir. Le syndicat aussi, c'est ce qu'il disait publiquement hier, qu'avec ces augmentations-là, ce rattrapage-là, on soit capable non seulement de freiner les départs, mais aussi de convaincre certaines personnes de se lancer ou même de revenir si elles étaient parties dans les dernières semaines, les derniers mois.
OK. On s'est parlé, il n'y a pas si longtemps, du ministère de la Famille, qui était complexe. Vous-même, comme ministre, vous dites, ça m'a pris du temps à comprendre comment ça marchait dans ce ministère-là.
Oui.
Je regardais le texte de Mylène Moisan dans Le Soleil, le 20 septembre, ça fait pas longtemps, là, où elle parle de la fausse pénurie de places en garderie. On parle de cas où on a besoin de place pour des bébés, des poupons, mais qu'il y a de la place ailleurs dans les différentes offres, là, que ce soit des CPE, que ce soit milieu subventionné, garderie privée. Êtes-vous bien certain qu'on manque de place?
Oui. C'est sûr qu'on manque de place. Je vous dirais, il y a deux enjeux. D'abord, il y a l'enjeu de trouver une place. Actuellement, il y a 51 000 enfants qui n'en ont pas, dont 37 000 qui en auraient besoin d'une demain matin. Donc, on manque de place au net. Ensuite, le deuxième défi, c'est d'avoir une place à 8,50 $. Ça, il y a davantage de parents qui sont à la recherche de ça aussi, parce que parfois, la place, elle coûte 50 $ par jour, 55 $ par jour, parfois un peu moins. Il y a le crédit d'impôt, bien sûr, mais les parents veulent des places subventionnées à 8,50 $. Donc, il y a ce double défi-là. Mais oui, M. Arcand, on manque de place, ça, c'est clair.
OK, on manque de place pour quel type d'enfant? Est-ce que c'est vrai que c'est surtout des bébés? Moi, les jeunes mères qui m'écrivent, puis ça donne que je travaille avec des jeunes mères aussi, là. Ben, ce qu'elles vivent, là, c'est de trouver une place. Pour un enfant de 3 ans, 4 ans, ça se négocie. Mais quand arrive le moment de dire c'est un bébé qui a 1 an, là, c'est plus difficile.
Ben, vous avez raison. Et c'est l'entrée à la garderie ou au CPE. Donc, évidemment, lorsque les parents terminent leur congé de maternité, de paternité, leur congé parental avec le RQAP, ben là, c'est le moment où on a le plus de tension. Mais je voudrais qu'on ait du travail à faire. Le travail, on le fait, puis je vais présenter le plan de match dans quelques semaines. Mais effectivement, on a du travail à faire pour accepter là, ou accueillir davantage de poupons dans le réseau.
Est-ce que, je réfère encore à l'article, là, où dans le fond, il y a des places en privé mais ça coûte trop cher, puis malgré les crédits, là, puis les parents disent, bon, on va attendre les places à 8,50 $.
Ben, je dirais, ça peut arriver, là. Parce que je ne vous dirais pas que c'est impossible, parce que vous allez recevoir un appel de quelqu'un qui va vous dire, moi, ça m'est arrivé.
Mais ça m'en prend plus qu'un appel, je peux vous dire que j'en ai pas mal de gens qui m'expliquent dans des garderies privées, j'ai 5, 10, 15 places non comblées, j'ai fermé un service. Parce que, bon, mais ces places-là, elles existent.
Elles existent, mais il faut qu'elles existent aux bons endroits. Par exemple, une place libre à Montréal, ça aidera pas un parent de l'Est du Québec qui en cherche une pénurie de place. On en connaît, la pénurie de place, on la connaît un peu partout au Québec, mais à Montréal, actuellement, il n'y a pas de pénurie de place en tant que telle. Il manque de place à 8,50 $, ça c'est clair. On en a transformé, on a un projet, c'est la première fois qu'un gouvernement fait ça, transformer des places à 40, 50, 60 $ en places à 8,50 $ par jour. Mais à Montréal, au net, là, quand on regarde les chiffres, on a un surplus de places. Donc, c'est vrai que dans certaines garderies privées non subventionnées, donc à 50 $ par jour, par exemple, il y a des places de libre, mais ces places-là, on n'en a pas besoin. Ce sera ailleurs au Québec. Donc, il est aussi là le défi de bien organiser les services partout.
Le fameux guichet, là. Semble-t-il que c'est plus ou moins fiable que des gens contournent le guichet, qui peuvent trouver des places autrement. Puis êtes-vous certain qu'il n'y a pas de doublon là-dedans?
Certain. Ben, en tout cas, je vous dirais, c'est le meilleur outil qu'on a, ou le moins pire depuis bien des années pour planifier le développement du réseau, puis essayer de faire en sorte que chaque enfant puisse avoir une place le plus rapidement possible. Je dis ça en marchant sur des œufs parce que on comprend bien que ça fonctionne pas et qu'il faut faire des changements. Ces changements-là, je vais les annoncer là, dans quelques semaines avec tout le plan d'action.
Attendez, là, je suis pas sûr que je comprends. Êtes-vous en train de me dire que le guichet fonctionne plus ou moins?
Ben, c'est ce que j'ai déjà dit publiquement. Okay. Moi, je pense que ce guichet-là, il fait ce qu'on lui a demandé, mais on lui a peut-être pas demandé la bonne chose. C'est-à-dire, les gens ont l'impression que c'est une liste d'attente. Bien, moi, je vous annonce, c'est pas une liste d'attente, ce guichet unique. C'est un endroit où les parents inscrivent leur enfant. Mais après, il y a autant de listes d'attente qu'il y a de CPE de garderie au Québec. Ça fait plusieurs milliers de listes d'attente différentes. Donc, les parents s'y retrouvent pas. Il y a des gens qui contournent cette liste-là. Il y a des services de garde qui ne la respectent pas. Donc, on a un enjeu. Et moi, quand je vois ça, ben d'abord, il y a une perte de confiance. Les parents ne font plus confiance au guichet. Puis ensuite de ça, ben quand ils décident de pas s'inscrire, nous, on a un problème avec ça à Québec parce que c'est de ça dont on sert pour planifier.
Mais dans le fond, vous ne savez pas combien il y a d'enfants qui sont en attente?
Ben il y en a 51 000. Ça, c'est le chiffre le plus précis qu'on a. Mais moi, je pense que ce chiffre-là, on pourra le préciser davantage une fois qu'on a remis de l'avant les changements qu'on veut faire, parce qu'on doit le faire. On investit 2,7 milliards de dollars par année dans ce programme-là, les services de garde, et actuellement, le gouvernement, c'est même pas lui qui est propriétaire de ces données-là. Moi, je pense qu'il y a un problème, puis on va le régler dans quelques semaines.
OK. Je vous donne un exemple, justement, avec des responsables de services de garde en milieu familial. Il y a un cas, là, c'est une anecdote, mais on a vérifié, puis c'est un cas plus large que ça. C'est une mère qui est donc une ressource, service de garde en milieu familial. Sa fille travaille avec elle. Sa fille étudie à temps plein. Travaille plutôt à temps plein, je m'excuse. Puis elle suit des cours le soir à l'UQAM pour avoir son diplôme de ressource de service de garde. Le problème, c'est qu'elle peut pas faire son stage avec sa mère ou dans une ressource comme celle-là. Il faut que ça soit dans un CPE ou dans une garderie subventionnée. Ce qui fait en sorte que pour faire son stage ailleurs au mois d'avril ou au mois de mai, ben il y a des parents qui vont être obligés de sortir leurs enfants de cette garderie-là parce qu'il n'y a pas d'autres ressources. Puis, semble-t-il qu'il y a plusieurs cégeps, collèges, qui posent le même genre de conditions. Si tu veux faire un stage, ben il faut que tu puisses le faire dans un autre milieu qu'un service comme de garde de milieu familial.
C'est une bonne question. C'est une bonne question. Il faudrait, c'est une donnée que je n'ai pas. Il faudrait vérifier avec les cégeps ce que je pourrais faire. Mais je vous dirais de façon plus générale, on marche toujours sur une ligne qui est très, très mince entre essayer d'être le plus accessible possible puis d'ouvrir les portes le plus possible, que ce soit le plus simple possible, mais aussi assurer une qualité de service. Donc, on veut pas non plus sacrifier la qualité. Et là, parfois, ben là, on marche sur une ligne qui est très, très mince. Mais dans tous les cas, là, écoute, on a tellement de pression que si on peut aller plus vite, on le fait, mais en préservant la qualité le plus possible, ça, c'est sûr.
Dernière question. Est-ce que vous comprenez finalement votre ministère?
Oui. Puis je vais vous dire, je sais qu'on a cassé beaucoup de sucre sur le dos du ministère. Est-ce que c'est parfait? Non. Mais je vais vous dire, j'ai une sous-ministre, Julie, qui est extraordinaire. On est loin de l'image des fonctionnaires qui travaillent pas les deux pieds sur un bureau. On a une équipe qui est très mobilisée. Puis je voudrais que les changements que j'ai annoncés, là, quand je vous disais que ça fonctionnait pas, mais les gens du ministère aussi avaient besoin qu'on leur enlève ces chaînes-là, tout comme les gens sur le terrain qui voulaient développer des CPE. Fait que tout le monde est très, très motivé. Le couteau entre les dents, puis on est prêt à présenter notre plan d'action d'ici la fin du mois d'octobre.
Parfait. Merci, M. Lacombe.
Merci.
Au revoir. Mathieu Lacombe est le ministre de la Famille. Mais avouez que c'est tout un univers. Il y a des places, mais pas aux bonnes places. Puis il y a des places privées qui sont disponibles. Puis que, mais c'est pas là qu'on veut. Ou encore, puis là, ouais, tu disais, j'ai un poupon. Non, tu peux pas parce que. Mais si ton enfant avait soudainement 3 ans, ça ferait notre. Puis en bout de ligne, ça revient pas cher de l'heure. Tu sais. C'est des grosses semaines, ça, là. C'est des bonnes augmentations, réelles, une bonne nouvelle. Mais ça demeure un taux horaire quand même. Disons, passable.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin,
celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand.
Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Hier soir à la télé, comme Catherine le disait, même les gens qui habituellement restent de glace parce que ça demeure une fiction, c'est à la télévision. Beaucoup de gens ont été émus, touchés. évidemment, la mort de Stéphane Pouliot, mais la façon dont ça s'est passé. Puis tu nous as préparé l'extrait, justement, où le commandant Chiasson annonce la nouvelle.
On a retrouvé Stéphane. Mort dans son véhicule. C'est pas un accident. Il a été tiré avec une arme. À bout portant.
Sébastien Delorme est avec nous ce matin. Bonjour, Sébastien.
Bon matin.
Comment ça va?
Ben là, vous me mettez un extrait super triste en partant, Colin. Parce que j'ai regardé l'épisode, moi aussi, puis j'ai regardé mes collègues interpréter. Donc, quand ils ont reçu la nouvelle, ben, ouais. Oui, j'ai versé des larmes, moi aussi.
est-ce qu'on comprend que c'est pas ton choix que tu aurais voulu continuer?
J'ai parlé à Luc, en fait, il m'a... Je pense que c'est pas ce qu'il voulait nécessairement, mais je pense que comme il est rendu à sa sixième saison, puis je pense que c'était la clé que je lui parle pour vraiment comprendre pourquoi ça se passait comme ça. Il a besoin, tu sais, au bout de 6 ans de brasser son histoire pour pas s'endormir. Je pense qu'on a besoin de se mettre en danger comme artiste, lui comme moi, pour faire avancer les choses. Puis en même temps, créer quelque chose de nouveau, faire réagir le monde autour de nous. Si nous, ça nous fait réagir, ben éventuellement, ça va faire réagir le public. Puis ben c'est comme ça. Tu sais, Paul, on est des gens qui racontons des histoires et on sert aux histoires. Ce n'est pas notre histoire. Puis je suis persuadé que les interprètes de Roméo et Juliette, eux autres aussi, ils se disent « Oh non, je meurs à la fin ». Mais c'est ça, c'est un peu la même chose pour moi.
Mais quand on est dans une série comme ça, c'est pas comme un ouais. film qui a un début, une fin, tu dirais bien. Là, c'est tout en constante évolution. Tu l'as su combien de temps avant de tourner ta scène que tu allais mourir?
Ah, tourner ma scène? Non, j'ai su 2 semaines avant de commencer la saison qu'il y avait une fin pour Stéphane Pouliot. Après ça, j'ai tourné 3 semaines. Et puis, ben, ça fait depuis tout ce temps-là que je me promène à vélo parce que mon quotidien a complètement changé. J'étais habitué de tourner 8 mois par année. Puis, ben là, c'est ça.
Mais qu'est-ce que tu fais de tes journées, là?
J'ai roulé 2000 kilomètres, mais demain, il y aura un nouveau projet qui sera annoncé dans lequel je participerai. Quelque chose qui tombait à point. Après avoir tourné ma mort, 2-3 semaines après, on va faire un rôle. Et puis, ben, let's go. C'est pour moi le héros principal, c'est parfait. Je vais encore servir l'histoire, puis c'est merveilleux.
Quand tu as vu la réaction la semaine dernière, là, tu sais, quand les gens, tu sais, on dit, bon, le personnage avait déjà été victime d'une tentative de meurtre. Il avait survécu. Ouais. Là, l'espoir, tu comprends? Puis c'était senti. Ouais. Moi, j'ai reçu des courriels de bêtises, de gens qui disent « Parle à ton chum Dion. » Là, ça n'a pas d'allure qu'il fasse mourir pour tout. Puis on était un petit peu beaucoup dans ça. C'est quoi la réaction d'un acteur quand il voit l'attachement du public à son personnage?
Mais moi, j'ai jamais vu ça. Quand tu gagnes une statuette, mettons, j'ai beau artiste, la reconnaissance du public, je connaissais pas ce phénomène-là de que ton personnage meurt et que tu reçoives autant de messages de toutes parts. Moi, c'est des gens avec qui j'ai travaillé, c'est des metteurs en scène, c'est mes professeurs d'école de théâtre, c'est mes collègues comédiens, c'est toutes des gens qui me souhaitent le meilleur du monde pour la suite. J'ai fait partie de leur vie pendant 5 ans et probablement même que l'année de la pandémie, où est-ce que tout le monde était enfermé chez eux, ben on a plus que jamais fait partie de leur quotidien, puis qu'on leur a raconté des histoires qui leur ont fait penser à autre chose, fait qu'on a vraiment servi à c'est là que je me rends compte qu'on a eu comme une importance dans la vie des gens, puis c'est probablement pour ça que ça c'est aussi fort que ça la réaction.
Et j'imagine aussi que c'est un impact financier majeur quand on a un rôle dans une quotidienne comme ça, puis bang!
Non, j'ai même pas pensé à ça. C'est Non, mon comptable m'a dit que ça allait bien.
Après 6 saisons de District 31, c'est sûr que ça doit bien aller quand même.
Ça va être mais correct. Je l'ai quand même appelé pour savoir. Va-t-il être correct? Oui, c'est beau, Sébastien. Okay.
Il a bien géré ça, mais c'est. Non, mais c'est parce que c'est quand même c'est vrai. Je comprends que le métier d'artiste, vous allez d'un contrat à l'autre, puis d'un projet à l'autre. Mais tu sais, il y avait. Je comprends que c'était beaucoup d'heures, mais il y avait, tu sais, comme une certaine stabilité.
Mais une quotidienne, c'est exceptionnel.
C'est sûr.
Je sais même pas si ça existe ailleurs dans le monde, mais ça existe ici parce que Fabienne a inventé ce mode-là d'émission. Et donc, avoir une job aussi stable que ça, pendant 8 mois par année, j'avais jamais vu ça. Aucunement j'aurais pu cumuler 500 jours de tournage et plus sur des séries qui reviennent même pendant 7 ans. C'est énorme, c'est un privilège. Et tous mes collègues et moi, on pourrait dire, on est des comédiens super entraînés, super efficaces. On apprend du texte à une vitesse incroyable. À la fois j'ai fait ma formation plus jeune, à la fois j'ai fait ma formation avec ce projet-là, puis j'en serai éternellement reconnaissant.
Et Sébastien, d'avoir eu l'étiquette de poupou pendant autant d'années, est-ce que tu penses que ça va rester marqué? Est-ce qu'il va falloir faire quand même une différence entre le poupou et Sébastien Delhomme dorénavant? Parce que les gens sont tellement attachés à ton personnage.
Oui, ben c'est là mon défi des prochaines années, d'essayer de faire oublier ou de faire croire à autre chose. Mais comme c'est des histoires qu'on raconte, j'ai confiance que l'histoire sera plus forte que le personnage.
Mais l'histoire était hier merveilleusement racontée. C'est-à-dire, mais la scène, je pense à tes comédiens, comédiennes là, qui apprennent la nouvelle, mais ouais, tes partners, là, c'était quelque chose là.
Michel
Charrette, ouais.
Avec les lunettes tout croche en train de pleurer, maman, j'ai fait ben bon, Yann, il m'a fait pleurer. Fait que j'ai texté, j'ai dit tu m'as fait pleurer. C'était bon, mon chum.
On a fait une petite recherche, peut-être tu vas te souvenir de ça. T'as joué dans Watatata.
Oui.
T'as quitté parce que je pense que t'avais décidé, puis ton personnage, pas toi qui le jouais, mais il s'est fait tirer aussi.
Oui, j'étais pas prêt à mourir, tu vois. J'avais réussi cette fois-là à m'enfuir.
Sébastien, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est bien apprécié.
Ça fait un plaisir.
Salut. Sébastien Delhomme. Bon, ben voilà pour District 31. La semaine n'est pas finie, d'ailleurs.
Non, ben c'est parce que jeudi, il y a encore un personnage principal qui va quitter la série. Là, on parle pas de décès, là, je tiens à vous rassurer quand même là, le plus possible parce que ça fait beaucoup d'émotions.
Ça fait beaucoup d'émotions.
En une semaine. Puis de voir juste un mort aussi. Ben, jouer la mort pour un comédien, c'est déjà exceptionnel. C'est rare que tu peux faire ça dans ta vie puis revivre après. Mais Sébastien Delhomme l'a très bien joué.
Parfait.
L'essentiel de Paul Arcand.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.